Quand il s'agissait de démocratie, il ne transigeait pas.
Les citoyens se délaissent de leur pouvoir pour aller voter tous les 5 ans en ayant l'impression de vivre encore dans un régime dit démocratique, alors que pour lui, il ne cesse de le dire avec sa férocité habituelle, nous vivons dans des oligarchies libérales.
Prénom ?
Cornelius. On dit parfois Corneille.
Nom ?
Castoriadis. On abrège souvent Casto.
Sa naissance ?
11 mars 1922, il y a 100 ans, à Constantinople, qu'il n'aime pas parce qu'elle est romaine. Son cœur est en Grèce, où il s'est formé à l'université, et aussi par la résistance pendant l'occupation allemande.
Son parcours professionnel ?
Il n'appartient qu'à lui. Tour à tour, ou en même temps, haut fonctionnaire à l'OCDE, psychanalyste, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, il aimait bien se tenir à des carrefours de disciplines d'où il creusait des galeries.
Quelle était sa position politique ?
Révolutionnaire. Ni élite entretenue, ni expert, ni bureaucratie. Il prônait une démocratie radicale dont il trouvait les germes à Athènes.
Ses écrits,
longtemps dispersés dans des revues comme Socialisme ou Barbarie, ses écrits politiques ont fait l'objet de beaux volumes aux éditions du Sandre. Les titres les plus réputés, Les carrefours du labyrinthe, L'institution imaginaire de la société, Ce qui fait la Grèce et, en 1980, Devant la guerre.
Et sa mort ?
À Paris, le 26 décembre 1997.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Cornelius Castoriadis, c'est un compagnon roboratif pendant les campagnes électorales les plus ternes. Imaginez que vous croyez à la démocratie représentative. Il va moquer aussitôt votre crédulité. Ainsi donc, vous admettez que la volonté collective puisse se liquéfier dans les urnes et en ressortir pour consacrer quelques centaines de députés. Autant croire à la liquéfaction du sang de Saint-Janvier à Naples. Pour Castoriadis, les traditions ne sont pas nécessairement bonnes à prendre telles qu'elles sont reçues. Lui, il a toujours été à l'affût des moments où les sociétés, comme les individus, ont gagné en autonomie. Et à cet égard, il considère que son pays d'origine, la Grèce, a été une extraordinaire inventrice, un ouvroir de politique potentielle. Mais, disait Euripide, rien n'est plus merveilleux, mais rien n'est plus terrible que l'homme. La Grèce, qui a su donner au conflit politique une forme institutionnelle, elle a aussi connu les violences brutes de la guerre de Troie. Et d'ailleurs, la guerre a été la première expérience politique du jeune Cornelius. 1941, les Allemands envahissent son pays.
Ici Radio Athènes, encore libre. L'envahisseur entre prudemment. La ville est déserte, les maisons sont fermées. Bientôt, Radio Athènes sera allemande.
Cornelius lui-même raconte l'époque, il avait 19 ans en 41.
C'est un jeune homme qui a la tête remplie d'idées, de lectures, de projets, qui a pas mal, un certain nombre d'amis très chers, et d'amis eux aussi, qui se promènent dans cette ville qui à l'époque est adorable, qui est comme une ville italienne du sud, une ville néoclassique tout à fait, où c'est un plaisir physique de se promener dans les avenues de la ville à midi en été, parce qu'il y a en tout et pour tout 5 voitures, et que le ciel est magnifique, le soleil est chaud, etc., l'air sent bon. Découvre continuellement des nouveaux auteurs, des nouveaux continents, des nouveaux modes de pensée, de nouvelles musiques, de nouvelles peintures, etc., de nouveaux êtres humains, et pour qui ça reste comme une période y compris pendant la période de l'occupation, peut-être surtout pendant la période de l'occupation, parce que là, là on voyait ce que les amitiés valaient,
ouais,
n'est-ce pas,
ouais.
Et comme toujours dans ces cas, le fait qu'on vit sur le bord d'un danger mortel intensifie énormément tout le vécu, ce qui pourrait être autrement une histoire banale devient quelque chose de très important, parce qu'il est, il est vécu autrement. Il est vécu dans ce que Jaspers aurait appelé une grande situation, une situation limite. Bon, et cette période, c'est pour le Castoriadis d'aujourd'hui, peut-être la plus belle période de sa vie.
Le jeune Cornelius participe à la résistance. Celle-ci est largement dominée par les communistes, mais lui, il est du côté trotskiste et il vit dans sa chair l'affrontement entre les deux tendances. La droite et les royalistes ne font pas non plus de cadeaux aux communistes et aux trotskistes dès lors que l'URSS a accepté en 1944 que la Grèce revienne aux Occidentaux. C'est un pays plongé dans la guerre civile qui va durer beaucoup d'années, que Cornelius quitte à la Noël 1945, titulaire d'une bourse pour aller étudier en France. Il embarque sur un vieux rafio néo-zélandais, le Mataora, devenu légendaire pour avoir transporté des Juifs en Palestine et nombre d'intellectuels grecs. Parmi eux, ses témoins.
On se trouvait dans cet énorme bateau, 140 personnes, le bateau était presque vide. Et il y en avait juste le personnel du bateau qui n'était pas plus nombreux que nous. Mmh. Pour nous, les Grecs, qui n'avaient pas beaucoup voyagé à l'étranger avant la guerre, parce que les Grecs voyageaient très peu à l'étranger, et on se trouvait dans une ambiance un peu extraordinaire. D'abord, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on quittait la Grèce. On ne savait pas ce qui nous attendait à Paris. Et on a tous réalisé qu'on allait faire des études, réaliser un programme que jusque-là on ne croyait pas possible.
Il s'est créé une espèce de mini-légende autour de ce bateau. Quelque chose qui, entre l'épopée et la tartarinade, comme si c'était le Mayflower, ou comme si c'était le bateau ivre, ou je ne sais pas, le vaisseau fantôme. Mais on a pris ce bateau-là parce qu'il n'y en avait pas d'autre, c'est aussi bête que ça. Et il n'y a pas de quoi faire une légende. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout partie avec l'idée de ne plus jamais revenir. Loin de là, je pensais aller faire des études, une thèse, autre chose selon là, et puis rentrer comme tout le monde, comme ça se faisait à l'époque. Je ne pensais jamais que j'allais mener une existence d'étrangère, d'immigrée, ou une existence de française, de femme française. Je crois très peu de nous se douter qu'il n'allait plus jamais retourner pour de bon au pays.
Lui, Cornelius, installé à Paris définitivement, ne prendra la nationalité française qu'au début des années 1970.
Merci Michael Levinas, merci d'avoir accepté de parler avec moi et de jouer. Je vous ai redemandé ce premier prélude parce qu'il est lié à un des quatre ou cinq souvenirs les plus heureux de ma vie. C'est juste après la fin de l'occupation à Athènes, novembre 44, le couvre-feu est levé. Je rentre chez moi de chez des amis qui habitent Colonna et qui est à Athènes. Les rues sont désertes. C'est les quartiers chics, et à l'angle de deux rues, d'une fenêtre ouverte au premier étage, vient du piano. Je reste debout, je ne sais plus s'il y a la lune ou pas, elle n'est pas indispensable de toute façon, et j'entends dedans jouer les préludes de Chopin, et je reste là absolument émerveillé, fixé, et au bout d'un certain temps, un monsieur sort sur le balcon, alors que la musique continue. Et il me dit, mais vous aimez la musique? Je dis, c'est ma vie. Il me dit, mais montez donc. il descend, il m'ouvre, je monte, je me trouve dans un appartement très beau, avec un grand piano à queue, une femme splendide, et on a passé la nuit jusqu'à 4h ou 5h du matin, elle a joué surtout du Chopin, elle a joué le scherzo en si bémol mineur, et vraiment ça reste comme une espèce d'image pleine d'une lumière qui n'est pas une lumière matérielle, enfin dans ma vie, un très beau souvenir.
De ces moments forts de sa jeunesse, Castoriadis ne gardera-t-il pas l'habitude d'une vie apparemment compartimentée et le goût des expériences intellectuelles larges, Monsieur Lebrun ?
Existence compartimentée. Enfin, il n'y a pas vraiment des Castoriadis différents qui auraient changé de pied d'une période à l'autre. Il a toujours continué du même pas ses recherches philosophiques. La recherche de l'amplitude, simplement, à ses débuts, il ne les publiait pas. Et ce qui apparaissait au grand jour, c'était son travail à l'OCDE, où peu à peu, à partir de 1948, il était devenu un fonctionnaire important dans une grande bureaucratie du camp occidental.
Dans tout appareil bureaucratique hiérarchique, y compris bien entendu dans les partis politiques, l'individu qui veut parvenir au sommet doit parcourir les échelons de la pyramide bureaucratique. Cette montée même va devenir, par la force des choses, son unique préoccupation. Et elle aura de moins en moins à faire avec sa capacité d'accomplir les tâches qu'il est censé devoir accomplir, et de plus en plus avec sa pure et simple capacité de grimper. On connaît l'aspect tautologique de l'explication darwinienne. Les espèces qui ont survécu sont les espèces les plus aptes. Les plus aptes à quoi ? Les plus aptes à survivre. Les individus qui montent dans un appareil bureaucratique sont les individus les plus capables. De quoi ? De monter. Et comment ? Moyennant, évidemment, l'utilisation de tout le jeu intra-bureaucratique, des cliques et des clans, etc., et la transformation concomitante, aspect tout à fait fondamental, de tous les vrais enjeux en objets de bagarre entre cliques et clans.
En même temps qu'il se hissait à la tête d'un service de plus de 100 personnes à l'OCDE, Cornelius, tel une vieille taupe, creusait des galeries pour la révolution qu'il souhaitait. Avec un autre philosophe du politique, Claude Lefort, il anime un petit groupe, Socialisme ou Barbarie. Les membres s'en réunissent semi-clandestinement, généralement dans des cafés, ils éditent une petite revue, qu'aujourd'hui les libraires d'occasion s'arrachent. Castoriadis, qui écrit sous pseudonyme, s'y est livré à un démontage en règle de la bureaucratie communiste. Nicolas Poirier, auteur d'une thèse sur Castoriadis, lui vient du monde libertaire.
Donc à l'époque, Castoriadis, enfin, et l'ensemble du groupe partagent une même compréhension du phénomène bureaucratique, séparé en deux en quelque sorte. D'un côté, il y a le capitalisme bureaucratique total, ou totalitaire, représenté par le bloc de l'Est et l'URSS, et de l'autre, le capitalisme bureaucratique fragmenté, fragmentaire, l'Occident, voilà. Et il fallait lutter contre ces deux formes de capitalisme afin de penser une société autogérée, voilà, libérée du principe de la domination.
Alors, c'est quoi l'URSS dans cette perspective ? C'est une bureaucratie d'État ?
Oui, alors, ils se sont séparés de Trotsky parce que Trotsky pensait qu'une simple révolution politique qui aurait éliminé la caste ou la couche bureaucratique parasitaire permettrait vraiment de faire de l'URSS un véritable État socialiste. Une révolution avait été accomplie dans le domaine de l'économie, il restait à l'accomplir dans le domaine politique. Pour Socialisme ou Barbarie, en fait, aucune révolution véritable n'avait été accomplie en Union soviétique. Il fallait vraiment supprimer le principe et de la domination politique et de l'exploitation économique. En fait, cette soi-disant couche bureaucratique dont parlait Trotsky, en fait, c'était vraiment une nouvelle classe dominante à l'échelle d'un pays qui exploite le travail ouvrier et qui domine sur le plan politique. sur un mode, là, pour le coup, totalitaire. Sans les possibilités qu'offrait la démocratie libérale aux États-Unis et en Europe de pouvoir s'opposer par des syndicats quand même vraiment libres, enfin en tout cas, qui ne soient pas indexés par rapport au pouvoir.
Cornelius se tient aux aguets et, socialisme ou barbarie, enregistre et salue tous les signes de rébellion des ouvriers contre les potentats et les demi-potentats des régimes communistes. Ainsi, en 1953, à Berlin-Est.
Le 17 juin 1953. Ça ne vous dit rien. Ah, ici, on s'en souvient. En pleine démocratie populaire, les ouvriers de l'Est protestaient contre la famine et l'augmentation des heures de travail dans leur secteur. La manifestation se transforma rapidement en révolte. Mais soudain, la foule s'enfuit devant les tanks russes. L'enterrement des victimes donna lieu dans nos zones occidentales à de grandes manifestations de solidarité. C'était impressionnant, ces arrêts de travail d'une minute dans toutes les usines, sur tous les chantiers.
Peu après, en 1956, la révolution hongroise sera écrasée par les tanks russes. Socialisme ou barbarie, observe, critique. En France, la tutelle du Parti communiste sur la vie des idées se trouve peu à peu desserrée et les positions du groupe sont mieux comprises. Le combat contre la guerre d'Algérie le rapproche de ses homologues de la gauche intellectuelle. Mais en même temps, les dissidences le minent et il va se dissoudre peu avant le mouvement de mai 68 que Castoriadis suit avec passion. Les étoiles, dorénavant éteintes de socialisme ou barbarie, n'ont pas fini de briller. Daniel Cohn-Bendit dit ici la lecture commune de la revue qu'il fit avec son frère Gabriel.
Il faut quand même dire que eux, c'est-à-dire les trois, Castoriadis, ouais. Morin et Lefort, ouais. ont écrit un livre qui s'appelle La Brèche. Ils l'ont publié trois semaines après la fin, quoi, non ?
Début
et c'est vraisemblablement toujours l'analyse qui tient le mieux la route depuis.
Quand même sur pas les mal, événements sur de 68.
Socialisme ou barbarie, tous ces gens ont évité que je fasse toutes ces erreurs qu'ils ont faites. Moi, je ne suis jamais parti passer ni par les partis communistes, ni par les trotskistes, je n'ai pas eu besoin. Puisqu'en lisant Socialisme ou barbarie et des revues comme ça, ça m'a évité tout ça.
Donc, en fin de compte,
ça m'a raccourci l'histoire.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a quand même une paternité intellectuelle là qui t'a aidé
à... Moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit et écrit, c'est évident. Moi, là où j'ai commencé, je ne dis pas c'est là où ils ont terminé, mais c'était effectivement en fonction d'une évolution intellectuelle et de débats intellectuels qu'ils ont menés, eux.
Ouais. Eux, c'est-à-dire la génération de Cornelius avec les amis de
plus,
socialisme.
Plus la génération de mon frère, qui aurait pu être son fils aussi, mais qui a 9 ans de plus que moi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer une autre génération révolutionnaire en la personne de Cornelius ?
Ah, lui, il est toujours révolutionnaire. Moi, non, c'est ça.
La pensée de Castoriadis s'intègre bien dans l'esprit de mai. Pour lui, l'essence de l'homme est auto-création. Comment faire advenir un sujet autonome dans une société autonome ? Ensuite, dans les années 1970, les héritiers de mai sont nombreux à rejoindre le combat des dissidents des pays de l'Est. En même temps que les partis de gauche organisent leur union pour accéder enfin à l'Élysée, le mouvement anti-totalitaire creuse sa différence. Décembre 81, François Mitterrand est déjà parvenu au pouvoir quand le général Jaruzelski, l'instrument de Moscou, impose à la Pologne l'état de siège. Le ministre socialiste français des Affaires étrangères explique que « naturellement, nous ne ferons rien ». Castoriadis proteste haut et fort. Peu auparavant, il a publié « Devant la guerre ». Il a toujours pensé à l'ombre de la guerre. En 80-81, elle lui paraît possible. Brejnev a déjà envahi l'Afghanistan. Castoriadis estime que les moyens militaires de Moscou n'ont jamais été aussi grands. Le nouveau président américain Reagan veut contraindre Brejnev à accélérer ses dépenses militaires jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les assumer. Le moment est hautement dangereux. Olivier Fressard, un des disciples de Castoriadis, un des animateurs de l'association qui porte son nom.
Une société qui a investi essentiellement l'armée, sa modernisation, au détriment du développement de la société civile, de son économie. Hein. On vit quand même difficilement, pauvrement, chichement en Russie, toujours aujourd'hui. C'est une société qui est tournée vers l'expansion à l'extérieur, vers la domination, peut-être pas mondiale, mais la domination déjà des États qui sont le plus proches. Donc ça, on le voit à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, hein, avec Poutine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est que la Russie de Brejnev? Parce que c'est à cette époque-là. C'est une Russie qui croit plus du tout à l'idéologie communiste, qui en parle encore le discours officiellement, mais qui n'y croit pas du tout. Donc il y a un rapport cynique. La seule chose à laquelle elle croit, dit-il, c'est la force brute. Voilà, et ça, si vous voulez, ça nous parle quand on regarde ce qui se passe avec Poutine.
Il n'a pas vu que l'URSS allait s'effondrer, il n'a rien prévu, il a fait preuve de cécité.
Oui, c'est ça, on lui a reproché une sorte d'exagération.
Nicolas Poirier.
Alors, il avait introduit le concept de statocratie.
Stratocratie.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'État, Union soviétique, c'était l'armée qui avait pris le pouvoir sur le pôle idéologique qui était incarné par le parti traditionnel. Et pour lui, c'était la seule, au fond, la seule idéologie, c'était la force brute pour la force brute. L'impérialisme pour l'impérialisme. D'ailleurs, je pense qu'on peut appliquer très bien ces analyses sur la statocratie russe en 80 à ce qui se passe là, avec Poutine et l'Ukraine. Mais effectivement, on lui a reproché un aveuglement et d'exagérer effectivement la force de l'Union soviétique sans voir que le système était en train déjà de se décomposer. Enfin, peu de gens ont pu quand même anticiper, on en est dans les années 80, l'effondrement à terme de l'URSS. Mais pour lui, c'était un système irréformable. Voilà. De fait, c'est vrai que ça n'a pas été réformé, même par Gorbatchev. Le système s'est un peu ouvert, il y a eu une transparence, la perestroïka, glasnost, mais ça s'est quand même effondré au début des années 90.
Et aujourd'hui, vous pensez que c'est lisible devant la guerre?
Ah oui, oui. À la lumière de l'expérience contemporaine, évidemment, hein, avec 40 ans de décalage, en oubliant un peu Brejnev, mais je pense qu'effectivement, le nationalisme pour le nationalisme et la force brute pour la force brute, oui, c'est un peu l'unique idéologie du système poutinien.
France Inter. Intelligence. Service.
Les temps changent, mais la vie de Castoriadis demeure multiple. Le voilà devenu psychanalyste, Monsieur Lebrun ?
Eh oui, la psychanalyse va peu à peu devenir son métier après qu'il aura démissionné de l'OCDE. Enfin, c'est autre chose qu'un métier, c'est une exploration. Le langage, tel qu'il l'avait pratiqué, décrivait ce que nous voyons. Voilà qu'il laisse aussi échapper ce que nous ne formulons pas. Et il donne aussi corps à des imaginaires qui peuvent être politiques. Par exemple, pour rejoindre les préoccupations de Castoriadis, l'égalité. Il reste un philosophe du politique. Par exemple, les institutions, ce sont des réseaux symboliques où se combinent une composante fonctionnelle et une composante imaginaire, celle qu'observe la psychanalyse.
Il pensait que Marx n'avait jamais réussi à penser. C'était pas son objet, mais enfin, quand même, c'est problématique pour un penseur du niveau de Marx, n'avait jamais réussi à penser le sujet dans son individuation. Et il lui semblait que Freud était plus à même de penser l'individuation créatrice et le rapport à l'inconscient. Pour ça qu'effectivement, la référence à Freud s'est faite chez lui beaucoup plus présente à partir des années 60, 70, et notamment quand il est devenu psychanalyste.
Vous l'avez décrit, chef d'un puissant bureau armé de statistiques, avec des dizaines d'employés dans une institution internationale. Et après, il s'installe comme psychanalyste.
Oui, en 1973, il s'installe à son en tant que psychanalyste. Donc, il était marié avec Pierre Aulagnier, qui était une psychiatre, qui a écrit un livre important, La violence de l'interprétation. Et Castoriadis, dans sa formulation des rapports entre psychisme et institution sociale, doit beaucoup au travail de Pierre Aulagnier.
Alors, psyché et société, expliquez-nous.
Voilà, psychisme, donc, on va dire, tout ce qui est individuel et société, c'est-à-dire que pour Castoriadis, il n'y a pas d'individu à la base qui devrait ensuite s'insérer progressivement par le biais de médiation dans la société, mais en fait, l'individu est produit, voire fabriqué, par l'institution sociale. Si l'institution sociale n'est pas là pour structurer le psychisme individuel, bah, l'individu reste au niveau d'un psychisme psychotique, si vous voulez. Donc en fait, il n'y a d'individu que socialisé, mais ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas des ressources créatrices pour mettre en question le principe de l'institution sociale, que ça soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue plus collectif avec d'autres personnes. C'est comme ça que bah, les idéaux démocratiques et le projet révolutionnaire a pu émerger dans l'histoire.
Et que l'imaginaire peut être instituant. Il faut ajouter qu'il y a une corde supplémentaire encore à son arc. Il est élu en 1980 directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, personne n'ayant jamais raison seul, il y anime chaque semaine un séminaire, dans une petite salle d'abord, puis son rayonnement grandissant dans un amphithéâtre. Il laisse paraître de plus en plus d'articles, de livres, alors que ses textes, à l'origine, restaient souvent sous le boisseau. Et il aime que la publication de ses séminaires se présente comme des chantiers, avec les échafaudages visibles.
Les séminaires de Castoriadis qui connaissent de plus en plus de rayonnement ne sont-ils pas largement consacrés à l'expérience grecque, Monsieur Lebrun ?
Oui, ce qui fait la Grèce, c'est le titre d'un séminaire. La Grèce, c'est pas un modèle sorti tout droit de la statue d'un dieu, c'est un germe qu'il observe à l'état latent dans la Grèce homérique et qui va prendre forme peu à peu jusqu'à aboutir à l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Athènes, pour lui, moment décisif dans l'histoire, parce que d'un coup d'épaule, la cité va se dégager de l'instituer.
L'élément décisif, décisif pour l'histoire grecque, mais aussi pour l'histoire européenne et pour celle de l'humanité en général, ce n'est pas seulement ou surtout la démocratie conçue comme règne de la loi ou comme liberté des citoyens ou comme égalité. Ce qui est décisif, c'est la mise en question de la loi héritée. Nous avons là le premier moment d'une autonomie sociale, en ce sens que la société conteste sa propre institution, et que cette mise en cause de sa propre loi et la transformation de cette loi se font de façon explicite, en fonction d'une activité politique publique, dans et par le logos, la discussion, le conflit des opinions, et pas simplement comme violence aveugle. Voilà l'essentiel. Voilà ce qui nous intéresse par-dessus tout dans le monde grec.
La mise en cause de l'institué, et puis les hommes fabriquent les institutions qui vont produire des lois auxquelles ils acceptent d'obéir. Comment délèguent-ils ?
Qui est-ce qu'on élisait à Athènes ? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote, citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialiste. Il n'y a pas, et pourquoi c'est pas une affaire de spécialiste ? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide et les magistrats sont élus au sort ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des batailles. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre, il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur?
Alors, sur quoi on se base?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là?
Voilà. Alors
qu'est-ce
là, mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? Ben, en gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle.
Castoriadis lui-même qui répondait, vous avez peut-être deviné sa voix, Daniel Mermet, que ces interrogations concernaient au premier chef, comme Vincent Azoulay, que voici maintenant, c'est un de nos brillants jeunes hellénistes, directeur de la revue Annales. Il n'y a pas seulement la question de la participation, dit Azoulay, il y a aussi celle du contrôle. Les citoyens athéniens, la participation les concernait, mais c'était le contrôle à quoi ils étaient le plus attachés.
Ils allaient à la Pnyx, sur la colline où les Athéniens se réunissaient pour délibérer. Ils y allaient ou ils n'y allaient pas. Et que l'absentéisme, qui n'était jamais vu comme un problème, était en réalité tout à fait important. Alors, et pourquoi ce n'était pas un problème? Parce que les Athéniens avaient toute une série de procédures de contrôle. Et ce qui les intéressait, ce n'était pas simplement... Et là, je dirais un peu contrairement à ce que dit... Cornelius Castoriadis, ce n'était pas simplement de pouvoir s'exprimer à l'Assemblée, de pouvoir délibérer à l'Assemblée. Ils y allaient de temps en temps, quand justement leurs affaires le permettaient, et leur donnaient du temps libre. Mais en revanche, ils étaient maniaquement attachés à l'idée de pouvoir contrôler ceux qui allaient prendre la parole, ceux auxquels ils allaient déléguer une parcelle de pouvoir, les magistrats. Mais toujours de façon collégiale, toujours en les faisant permuter, jamais plus d'un an, hein, toujours souvent à 10, et à la fin, finissant souvent au tribunal.
Les pouvoirs sont toujours divisés dans l'esprit athénien tel qu'il le conçoit?
Oui, les pouvoirs sont toujours divisés. Alors, absolument pas selon la division du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. C'est pas comme ça que cela se joue, mais en revanche, ils sont divisés. Et c'est vrai que si on cherche à caractériser ce qu'est la démocratie, donc ce pouvoir du peuple, c'est effectivement une lutte permanente contre toute forme de cumul des pouvoirs. Une lutte contre ce qu'on peut appeler la capture oligarchique. Et cela passe par des formes de division, de rotation, de collégialité et de contrôle. Contrôle formel, c'est-à-dire par des institutions judiciaires, c'est-à-dire que les hommes politiques... bien sûr, tout le monde connaît en principe l'ostracisme, donc qui consiste à exiler n'importe quel citoyen parce qu'on soupçonne qu'il pourrait aspirer à la tyrannie pendant 10 ans, mais l'ostracisme est plutôt une mesure relativement modérée, assez peu utilisé, seulement durant le 5e siècle, pas au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et au-delà de l'ostracisme, il y avait d'autres procédures, comme l'accusation de haute trahison, et puis quelque chose sur lequel Castoriadis insiste beaucoup, l'action en illégalité, la graphe paranomon, qui était là pour mettre sur le grill, mettre sous tension les hommes politiques, les magistrats, qui pouvaient être toujours accusés de haute trahison, notamment les stratèges. Quand on perdait une bataille, bien souvent, on finissait devant les tribunaux. Et les sanctions, c'était très souvent la mort ou des amendes irremboursables qui vous faisaient perdre votre citoyenneté. Et la graphe paranomon, donc l'action en illégalité, ça touchait les orateurs. C'est-à-dire ceux qui prenaient la parole à l'Assemblée, qui pouvaient ainsi se distinguer en proposant des décrets et des lois qui étaient adoptés par les Athéniens. Mais ils restaient responsables de leurs paroles, des décrets qui avaient pourtant été votés en général à l'unanimité par les Athéniens, et ils pouvaient traîner devant les tribunaux, a posteriori,
si la mesure qu'ils avaient proposée s'avérait néfaste pour la cité. Et là aussi, les sanctions sont très lourdes. Et donc, vous avez des modalités de contrôle formelles, judiciaires, absolument inédites dans l'histoire. Hein. Et nos propres... quand on parle des hommes politiques persécutés par les juges, ça fait enfin, doucement rigoler les Athéniens du 5e et du 4e siècle.
En fait, dit Vincent Azoulay, le génie du peuple grec, c'est de savoir mettre en concurrence les élites, les unes contre les autres. Et le génie du peuple grec, c'est aussi, à côté de l'Assemblée, le théâtre.
Castoriadis parle énormément de la tragédie comme une façon de limiter le pouvoir du peuple et des hommes politiques. La tragédie, c'est une mise en question du pouvoir populaire, c'est-à-dire que voilà, est mise en scène l'hubris, la démesure, puisque la démocratie n'a potentiellement pas de limites. Et donc, ce que disait Castoriadis, c'est que avec la démocratie et donc le pouvoir du peuple se pose la question de la limitation de ce pouvoir, et que parmi les institutions qui d'auto-limitation, où les Athéniens se donnent à eux-mêmes leurs propres limites, eh bien la tragédie jouait un rôle. Par exemple, ils mettaient en scène les atrocités qu'ils avaient commises, alors de façon déplacée. Il prend l'exemple, Castoriadis, des Troyennes d'Euripide. Euripide met en scène ces Troyennes, après la chute de Troie, emmenées en esclavage, violées, enfin tout le cortège des horreurs de la guerre. Il le fait en 415 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste un an après que les Athéniens ont massacré tous les citoyens de l'île de Mélos, qui avait pour seul tort de vouloir rester neutre dans le conflit entre Athènes et Sparte, et mis en esclavage les femmes et les enfants. Et c'est donc pas d'idéalisation chez Castoriadis. Et on pourrait ajouter, alors il en parle parfois, et il dit qu'il faudrait en parler davantage, et il a raison, la comédie. La comédie attique, c'est un lieu où Aristophane et d'autres se moquent de tout le monde, le peuple, comme les hommes politiques. Ils mettent en scène avec une méchanceté dont on n'a pas idée, y compris dans nos sociétés. Enfin, les guignols de l'info, c'est une rigolade par rapport au tombereau d'injures, y compris scatologiques, qui tombaient sur les hommes politiques athéniens au 5e comme au 4e siècle.
Il n'idéalise pas la démocratie, disons, athénienne. Athènes, c'est le modèle, mais il y en a bien d'autres. C'est pas la seule cité à avoir une constitution démocratique. Mais il y voit un germe. Et ce qui l'intéresse...
Un germe, pas un modèle.
Un germe, pas un modèle. Par contrat, si vous voulez, si on veut situer l'originalité de la pensée Castoriadis, on a un penseur d'à peu près la même génération, un peu plus âgé, qui a tendance à idéaliser la Grèce ancienne, c'est Hannah Arendt. Et c'est pas le cas de Castoriadis.
Mais alors, Arendt, si je me souviens bien, elle dit... La grande invention de la démocratie athénienne, ça a consisté à ignorer l'animal laborance, enfin l'homme au travail, l'homme qui fait la cuisine, l'homme qui avec sa femme éduque ses enfants. Tout ça, c'est pas du politique, c'est du ressort du privé. Et le génie d'Athènes, ça a été de réserver la discussion politique aux grandes choses qui s'inscrivent dans la durée. Alors, ça, c'est une signification imaginaire particulière que ne partageait peut-être pas Castoriadis, qui devait quand même s'intéresser à l'inégalité des conditions des Athéniens, et pas seulement à l'égalité de la participation politique.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison de pointer cela. Donc, pour Hannah Arendt, il y a la sphère publique, il y a la sphère sociale, et puis il y a la sphère privée. Pour elle, la démocratie, c'est une affaire de la sphère publique, simplement. Et la sphère publique, donc la démocratie en l'occurrence, n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans la sphère sociale et dans la sphère privée. Ça n'est pas du tout le point de vue de Castoriadis. Pour Castoriadis, il y a aussi, alors lui, il donne un autre nom. Il y a aussi ces trois sphères. Et ces trois sphères, comment on pourrait le dire, elles n'ont pas à être, elles sont interdépendantes. Et il y a des intersections. Mais ce serait quand même curieux que dans une démocratie, on se préoccupe pas des questions économiques, des questions de production, des questions de consommation, etc.
Comme si on était citoyen à un certain moment, quand on est venu à pied jusqu'à l'Assemblée, et que on ne l'était pas nécessairement chez soi. Parce que ça, c'est une des questions qui sont soulevées aujourd'hui quand on parle de la démocratie athénienne. Chez soi, on a des esclaves. Qu'est-ce qu'il disait de ça, Cornelius
oui.
Castoriadis
Il n'allait certainement pas l'ignorer. Quelle était son argumentation sur ce point? Souvent, on évoque ce fait-là pour déconsidérer complètement la question, c'est-à-dire finalement pour ne pas prendre en compte l'expérience démocratique athénienne. En même temps, il faisait valoir aussi, autre imaginaire social, qu'il y avait une franchise dans le rapport aux esclaves chez les Grecs. L'esclavage, c'est on est esclave par la force. C'était de la force, c'était reconnu et présenté comme tel. Et il fait valoir que la première fois où apparaît un argument qui essaye de naturaliser la chose, naturaliser, c'est-à-dire dire il y a des hommes qui par nature sont esclaves, c'est pour ça qu'ils deviennent esclaves, c'est dans un passage d'Aristote. Mais Aristote vient après la démocratie, après le grand siècle de la démocratie. Et il dit, dans le corpus grec, on peut lui faire confiance, il avait une connaissance excellente de ce corpus, c'est la première fois où ça apparaît. Voilà. Mais avant, il n'y a pas ça. Donc on n'essaie pas de justifier, si vous voulez, par un discours, dans les temps modernes, on aurait dit raciste, par exemple. Non, il n'y a pas du tout ça. C'est un rapport de force. Voilà. Vous avez été vaincu, nous avons fait prisonnier, et désormais vous êtes esclave.
Bon, admettons avec Olivier Fressard que l'esclavage à Athènes n'est pas structurant comme il le serait dans une société raciste. Mais d'autres critiques sont formulées par ceux qui n'acceptent pas le rapprochement entre Athènes et nos sociétés contemporaines. Nos pays sont trop vastes, nos populations sont trop nombreuses pour agir dans la démocratie directe. Alors, Castoriadis, que ses élèves avaient initié sur le tard à l'informatique, suggérait malicieusement que l'horizontalité numérique, eh bien, ça ouvrait des horizons pour la participation démocratique. Et surtout, il refusait constamment la verticalité avec, au-dessus du peuple des citoyens, des experts prétendument universel. Le jour où Jeanne d'Arc est partie de vos couleurs, quelle chance lui auraient donné les experts si on avait eu à l'époque. Bon, les miracles n'intéressaient pas beaucoup Castoriadis. Ce qu'il reprochait plutôt aux experts, c'était de laisser approcher la catastrophe plutôt que de nous avertir. Oui, dans ces dernières années, alors nous sommes à la fin du XXe siècle, il fut de plus en plus sensible aux questions d'écologie. Nous sommes, disait-il, comme des enfants dans une maison en chocolat dont nous mangeons les murs sans savoir que le ciel va nous tomber sur la tête. D'ailleurs, nous sommes devenus étrangers aux techniques que nous manipulons. Nicolas Poirier.
Castoriadis pensait qu'une société véritablement démocratique, c'est une société qui choisissait aussi quel rapport elle voulait entretenir avec sa technologie et ses techniques. Voilà. Et qu'il ne fallait pas oublier que, effectivement, les êtres humains sont des êtres de culture, mais c'est également des êtres naturels. Et que, disons que le capitalisme occidental, enfin le capitalisme en général, c'est pas simplement l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est aussi l'exploitation des forces naturelles. Voilà. Donc une sorte de fantasme, dit Castoriadis, de toute puissance et d'un désir de maîtrise rationnelle de ce qui n'est pas complètement maîtrisable. Donc il fallait repenser le rapport de l'homme à la nature. Et effectivement, il a vu dans l'écologie politique, au-delà évidemment de sa constitution en tant que parti, éventuellement de gouvernement, comme une source de renouvellement d'une pensée politique démocratique émancipatrice que le marxisme, qui était trop limité par son productivisme, n'arrivait pas à voir.
Oui, parce que, attention, dit-il, l'écologie ne peut pas être inégalitaire, sinon elle ne sera pas. C'est lui qui va conclure cette émission. Prenez garde, cette déclaration elle date de plus d'un quart de siècle.
Le mouvement écologique, c'est un mouvement qui, effectivement, bien que d'un point de vue partiel, exerce une critique qui potentiellement est tout à fait, subversive de la société dans laquelle nous vivons. Cette critique est incomplète. Mais quand même, elle soulève un grand nombre de questions et elle rend conscient les citoyens et les citoyennes d'un certain nombre de problèmes. Et sans doute, elle les rend de plus en plus conscients. Des problèmes qui sont, à mon avis, dramatiquement critiques pour l'avenir, c'est-à-dire pour 10 ou 20 ans de distance, enfin. Bon. Alors, pourquoi le mouvement écologique est insuffisant, à mon avis ? D'abord, parce qu'il ne fait la critique que de un côté de la technique contemporaine. Il fait la critique de cette technique en tant qu'elle produit des biens de consommation et détruit l'environnement. Mais il ne fait pas la critique que, pardonnez-moi, j'ai fait depuis 1956, de la technique contemporaine de notre point de vue. C'est-à-dire que cette technique est hostile à celui qui l'utilise, à l'ouvrier. Et que ce dont nous avons besoin, c'est une transformation de la technologie, non seulement pour produire des draps qui durent 60 ans, mais nous avons besoin d'une transformation de la technologie qui instaure une certaine liberté des hommes dans leur travail. Hein ? On ne peut pas être esclave 8 heures par jour dans son travail et souverain politique tous les dimanches. C'est une absurdité. Alors donc là, le mouvement écologique reste muet, et il reste aussi muet sur les dimensions politiques de la chose. C'est-à-dire sur le fait qu'il y a besoin d'un changement global de la société si les objectifs que les écologistes poursuivent, même s'ils sont partiels, devaient être réalisés.
Merci à Zoé Castoriadis et à Olivier Fressard, qui sont quelques-uns des animateurs de l'association Castoriadis. Merci à Vincent Azoulay, le directeur de la revue Annales, à Nicolas Poirier, qui a publié l'imaginaire radical de Castoriadis aux presses universitaires de France. Les lectures Grégoire Roqueplot, à la technique Thomas Robin et à la maison de la radio et de la musique Anne-Laure Cochet. Les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation Audrey Ripouille.